Accent d'Europe, Catherine Roland.
Bonjour à tous. Depuis quelques années, le salafisme s'implante doucement dans les Balkans, financé par les pays du Golfe. Cette doctrine rigoriste se heurte à l'islam traditionnel, très libéral, enraciné en Europe depuis 600 ans. Les simples croyants, comme les imams sur le terrain, se sentent agressés par cette pratique de la religion importée de l'étranger. Même si les salafistes, souvent jeunes, restent encore minoritaires, les tensions s'aggravent. Reportage en Bosnie et au Kosovo. Merci à Nezic.
L'ambiance est bien studieuse ce matin-là à Ani Jelezit, petite ville kosovare de 10 000 habitants à la frontière macédonienne. Une vingtaine d'écoliers écoutent sagement l'imam dans la petite mosquée de la ville sous les yeux de Moussa Valla, le chef de la communauté islamique locale. Cet homme d'une soixantaine d'années remplace souvent l'imam pour les cours, mais aussi pour les prières. Et il est bien placé pour le savoir, de plus en plus d'adeptes d'un islam dur contestent le libéralisme traditionnel des communautés musulmanes balkaniques. Il y a 2 mois, il s'est retrouvé au milieu d'une rixe avec les salafistes locaux, un petit groupe d'une dizaine de personnes seulement, mais bien remuant.
J'avais une minute de retard, alors un de ces extrémistes a pris ma place pour diriger la prière. Je lui ai dit « Dehors, tu n'es pas imam, qu'est-ce qui t'autorise à faire ça ?» Il a refusé de bouger, des amis à lui sont arrivés, ils étaient 4 ou 5, ils s'en sont pris à moi, des gens de la mosquée s'en sont mêlés et ça a tourné à la bagarre générale. C'était vraiment une situation dure pour moi.
Les salafistes ne sont que quelques milliers dans les Balkans, donc bien marginaux, mais l'islam libéral de la région leur pose problème. Les musulmans, ils boivent de l'alcool et s'habillent à l'européenne. Une hérésie pour eux, comme nous l'explique à Montcouvert ce salafiste bosniaque.
Les gens qui pratiquent l'islam traditionnel conformément au Coran et à la Sunna sont musulmans. Ceux qui ne pratiquent pas, qui n'ont rien d'islamique, comment pourraient-ils être musulmans ? Être musulman, c'est pratiquer la religion, faire ce qui est prescrit, être soumis à Allah, conformément à ce qui a été révélé au prophète et ne pas faire ce qui est interdit.
Ce salafiste habite dans un village en Bosnie centrale. Ici, ils ne sont que quelques-uns, mais ils vivent entre eux. Ils fréquentent une paramosquée, en clair, un lieu de culte illégal aux yeux de la communauté islamique officielle qui ne reconnaît pas le rite salafiste. On compte un peu plus d'une dizaine de communautés salafistes en Bosnie. Elles sont de courant quiétiste, selon des sources concordantes. Elles ne prônent pas le djihad, mais leurs adeptes doivent vivre comme au temps du prophète. La paramosquée de ce village, c'est une simple maison un peu plus haute que les autres. Le vendredi, jour de prière, elle est fréquentée par tous les salafistes de la région. Une communauté qui, selon les spécialistes, est financée par la diaspora et des pays du Golfe. Goran Kovacevic est criminologue à l'université de Sarajevo.
Selon mes sources, les hommes touchent 250 euros et les femmes 150 euros pour s'habiller à la mode salafiste, c'est-à-dire pour arborer barbe et pantacourt pour les hommes et niqab pour les femmes. On parle de millions d'euros. Ça, c'est pour la première génération. Leurs enfants n'auront pas besoin d'incitation financière. Ils seront convaincus idéologiquement. Les gens aiment les explications simples. Et la vision du monde salafiste est simplissime. Tout est noir ou blanc. C'est à la communauté musulmane de contrer ces gens intellectuellement.
Et c'est bien ce qui est en train de se passer en Bosnie. Les communautés traditionnelles mettent au pas les salafistes en excluant les paramosquées qui refusent de revenir à un islam pratiqué dans le pays. Elles mettent en place des programmes de prévention de la radicalisation. Les imams démunis face à ce phénomène vieux de 20 ans seulement, eh bien ils apprennent à répondre aux radicaux, en Bosnie comme au Kosovo. La lutte est aussi théologique. Mohamed Jusic est le bras droit du Rejs Kavazovic, le numéro 1 de la communauté islamique bosniaque.
Nous ne pouvons pas les contraindre à penser autrement, même pas par la force, ni organiser d'inquisition pour brûler ceux qui croient et pratiquent différemment. Nous devons dialoguer. En revanche, nous pouvons nous assurer qu'au sein de nos mosquées et toutes celles légales qui sont sous le contrôle de la communauté islamique, cette idéologie ne soit pas diffusée.
Sur le terrain, les imams et les communautés islamiques locales radicale s'oppose concrètement à l'islam radical depuis des années, elles n'ont pas pu attendre les initiatives de Pristina et de Sarajevo. Dès qu'il repère un jeune qui risque de basculer, Moussa Villa réagit.
Nous allons voir les familles pour expliquer ce qu'est l'islam. On s'appuie sur les sourates qui parlent de la coexistence avec les autres sans tenir compte de leur religion ou de leur ethnie. Il n'y a pas beaucoup d'extrémisme ici, vous savez, et quand ça arrive, c'est surtout à cause d'Internet, de Facebook et tout ça.
Car sur le web, des vidéos en bosnien, serbe, croate ou albanais appel au djihad, on est donc loin de l'islam rigoriste, mais pacifiste. Dès que les autorités arrivent à les bloquer, ces sites de propagande réapparaissent. Ils sont souvent administrés depuis l'étranger. Pour aggraver les choses, les autorités des pays issus de l'ex-Yougoslavie ne savent pas encore lutter contre la cybercriminalité. Malgré ces difficultés, le barrage à l'islam radical fonctionne sans doute mieux dans les Balkans qu'ailleurs dans le monde musulman. Les Kosovars et les Bosniens ont une forte tradition laïque, à l'instar des autres peuples européens.
Le sexisme est partout. Le sexisme est partout. On met des voiles sur les filles, les phallocrates débarquent, on annihile. On siffle la robe de Cécile, où on imite le volatile. Dans le tube cathodique, dans les institutions, en politique, en religion.
C'est une cérémonie plutôt attendue pour les étudiants belges en médecine. L'événement se tiendra le 28 juin. Sauf que cette année, une polémique est venue perturber ce qui devait être une fête. Une polémique due à un mail envoyé par l'université aux étudiants demandant aux étudiantes, plus précisément, de venir en joli décolleté, Laxmi Lota.
C'est un email particulier qui est parvenu aux étudiants il y a quelques jours. Certains ont cru à une blague ou un faux, mais l'Université libre de Bruxelles a confirmé que c'était bien une secrétaire qui était à l'origine de l'envoi. Voici ce que l'on peut lire. L'email concerne le jour de la cérémonie de remise des diplômes. D'un point de vue esthétique, il est préférable que les jeunes femmes revêtent une robe ou une jupe, ainsi qu'un joli décolleté, et les hommes un costume. L'expéditeur de préciser tout de même, bien entendu mesdames, cette consigne n'est pas obligatoire. L'envoi a suscité un tollé parmi les étudiants sur les réseaux sociaux. Dans le milieu médical de l'ULB, ce sont apparemment les seins des étudiantes qui sont diplômées après 7 ans d'études, s'indigne une diplômée. Robe, jupe, en prime le décolleté, si ça c'est pas du sexisme, écrit une autre. Bel exemple de lettre sexiste, dénonce le président de la Fédération des étudiants francophones. Mais pour d'autres, ce mail n'est qu'une demande d'élégance, de tenue appropriée pour le jour J. Face à la polémique, le doyen de la faculté de médecine a choisi de s'excuser. Le porte-parole de l'université a évoqué, je cite, un mail déplacé et contraire à nos valeurs. Alors le 28 juin, les étudiants viendront-ils avec ou sans décolleté, avec ou sans costume? Le public ne le saura pas vraiment, puisqu'il est de tradition de porter une grande toge noire ce jour-là.
Entre 2015 et 2016, la Suède a accueilli 250 000 réfugiés. Comme ses voisins européens, le royaume, qui a durci sa politique migratoire, doit faire face à un défi majeur, intégrer tous ces nouveaux arrivants. Les communes ont à charge d'organiser des cours de langue, mais l'intégration passe aussi par la rencontre. Créée à Stockholm il y a 5 ans, l'initiative Svenska med baby, le suédois avec bébé, s'est répandue jusqu'à Eslöv dans le sud. Des groupes de parents suédois ou d'origine étrangère se rencontrent régulièrement pour partager conseils et expériences. Reportage Anne-Françoise Hiver.
Il est 11h30 ce vendredi. Les parents arrivent avec leurs enfants à la maison familiale de Tobelund, accolée au centre de pédiatrie. Un bâtiment de plein pied en briques jaunes, pas très loin du centre d'Eslöv, petite ville de 18 000 habitants dans la région de Scanie. À l'intérieur, une grande salle avec des tapis, des jouets, des décorations sur les murs. Les parents, la plupart des habitués, s'assoient en cercle par terre. Aujourd'hui, c'est Sabina Juppenström, professeure de suédois pour les étrangers, qui anime la réunion.
Le thème aujourd'hui, c'est la nourriture pour enfants. Quelles sont vos réflexions autour de l'alimentation de vos enfants? Quel genre d'aliments vous leur donnez et à quel âge peut-être? Mais d'abord, je pensais que nous pourrions nous présenter, car certains d'entre vous sont nouveaux aujourd'hui.
Ils sont une dizaine de parents, originaires de Suède, d'Allemagne, d'Israël, de Chine, de Syrie ou d'Italie. La discussion est lancée. Wei, qui vient de Shanghai et s'est mariée à un Suédois, raconte en mêlant l'anglais et le suédois qu'elle prépare des soupes à sa fille, Freya, 19 mois. Mais à sa grande surprise, le pédiatre lui a recommandé de ne pas lui donner de riz plus de 4 fois par semaine. Sam, d'origine israélienne, s'étonne.
Pourquoi ?
Parce qu'apparemment, c'est pas bon pour le bébé. Je sais pas pourquoi. En Asie, les enfants mangent du riz toute l'année, il n'y a pas de problème.
Et tous les bébés survivent.
La discussion se poursuit avant que tout le monde passe à table. Sandwich et pâtisserie pour les parents, purée pour les enfants. Sam vit depuis 10 ans en Scandinavie. Il est en congé paternité depuis 5 mois avec son fils Simon, 1 an. Il vient aussi souvent qu'il le peut.
Pour moi, c'est un bon endroit pour rencontrer des gens et avoir la possibilité de parler suédois. Ça n'a rien à voir avec les pays d'où viennent les gens. Mais c'est plus difficile d'oser parler quand on se retrouve qu'avec des Suédois parce que parfois on fait des erreurs. C'est normal quand ce n'est pas votre langue maternelle. Je pense que c'est juste plus facile de parler ici.
Racha, elle vient d'Alep. Elle s'est réfugiée en Suède il y a 2 ans. En Syrie, elle était professeure de musique et étudiait le droit. Sa fille, Célia, a 10 mois. Elle aussi vient pour s'entraîner à parler suédois.
J'apprends, mais je ne suis pas encore suffisamment bonne. Je ne crois pas que ce soit difficile, parce que j'ai envie d'apprendre. Je pense que la langue, c'est la clé pour vivre dans ce pays.
Et c'est l'avantage d'un groupe où se mélangent les origines, explique Sabina, qui remarque les progrès rapides des parents qui viennent régulièrement.
Je constate surtout qu'ils acquièrent le courage qui leur permet de parler. Ils améliorent ainsi leur compréhension de la langue, à l'oral notamment. Ils commencent à reconnaître des mots et ça les motive pour apprendre.
Mais ce n'est pas le seul objectif de ce groupe, rappelle l'animatrice.
On vient aussi pour trouver une communauté, pour rencontrer d'autres parents. Ça concerne même les Suédois bien établis. Certains viennent pour s'entraîner à parler, d'autres pour apprendre à connaître des gens et rompre l'isolement qu'ils peuvent parfois ressentir chez eux.
Osa est suédoise, elle est en congé maternité avec Selma, 2 ans, et Ludwig, 4 semaines. Comme le reste de la Suède, Eslöv s'est internationalisé, dit-elle, avec une population de multiples origines.
Et c'est bien qu'ils viennent ici aussi, cela permet d'éviter la ségrégation. On se trouve des points communs autour des enfants, c'est toujours plus facile de parler quand on a quelque chose en commun.
Et pour Caroline von Uxkull, directrice adjointe de Svenska med Baby, c'est essentiel pour s'intégrer.
Beaucoup pensent que quand on arrive ici, il suffit d'apprendre le suédois et qu'on décroche un boulot. Mais ils ne voient pas l'autre côté, que pour pouvoir faire tout ça, il faut rencontrer des gens avec qui on peut parler suédois. Il faut pouvoir entrer dans un réseau pour obtenir un travail, parce que c'est comme cela que ça fonctionne. Et je pense que cela va prendre un peu de temps avant que les gens ne le comprennent. Car on n'essaie pas de se mettre à la place de ceux qui arrivent, de comprendre à quel point c'est difficile d'arriver dans un pays comme la Suède et d'essayer de s'intégrer.
En attendant, il existe déjà 27 groupes de Svenska med Baby dans tout le royaume et d'autres devraient bientôt voir le jour.
Après des mois de propos plus qu'ambigus, Donald Trump devrait annoncer ce soir sa décision à propos de l'accord de Paris sur le climat. Lors du dernier G7 à Taormina, les 4 membres européens, le Canada et le Japon, ont fait front commun contre les États-Unis sans succès. Les Européens, eux, renouvellent leur objectif de réduire de 40% en 2030 les émissions de gaz à effet de serre, ce qui figurait déjà dans le paquet énergie-climat adopté en 2014. Cela dit, des engagements non contraignants à la réalisation des objectifs, le chemin est long. Bonjour Daniel Vigneron.
Bonjour Catherine.
Alors avant tout, Daniel, rappelez-nous les principaux engagements de l'Europe en matière de lutte contre le réchauffement.
Comme vous le disiez Catherine, l'accord de Paris conclu en décembre 2015 à l'issue de la COP21 ne représente pas pour l'Union européenne dans son ensemble une contrainte supplémentaire par rapport aux objectifs que l'UE s'est fixés en 2014. C'est même l'inverse puisque la réduction de 40% des émissions de GES à l'horizon 2030 ne constitue pas un engagement formellement contraignant dans le cadre de l'accord de Paris, alors qu'il l'est dans le cadre du paquet énergie-climat de 2014 fixant les engagements de l'Union pour 2030.
Est-ce à dire qu'on pourra respecter quand même les objectifs en 2020 ?
Ces objectifs seront respectés pour l'ensemble de l'Europe. En revanche, le tableau par pays est beaucoup plus contrasté, notamment en matière de réduction des GES. Il faut dire que l'objectif global pour l'Europe était assorti d'objectifs nationaux très différents pour tenir compte en particulier de la situation économique de chacun. Ainsi, l'Espagne, en plein rattrapage économique entre 90 et 2005, s'est vue assigner un objectif limité à 10% de réduction entre 2005 et 2020. Eh bien, en 2014, la baisse des émissions espagnoles était déjà deux fois plus forte. En revanche, un pays auquel on ne s'attend pas a priori n'a pas des résultats flamboyants. Ce sont les Pays-Bas qui, en 2014, n'avaient réduit leurs émissions que de 12,6%, alors qu'ils visent 17% en 2020. Mais il y a deux ans, le gouvernement de La Haye a été condamné par un tribunal néerlandais à adopter des mesures plus strictes.
Quid de l'Allemagne et de la France, Daniel ?
La France a déjà dépassé en 2014 son objectif de 17%. Mais l'Allemagne, du fait de la réactivation de certaines de ses centrales à charbon après l'abandon du nucléaire, l'Allemagne est encore assez loin de son engagement. Et pour ces deux pays, la tâche s'annonce plus ardue pour l'avenir dans la mesure où leurs engagements pour 2030 sont très élevés.
Alors où en est-on des énergies renouvelables ?
En 2015, le Royaume-Uni et les Pays-Bas avaient à peine réalisé la moitié du chemin par rapport à leurs engagements. À l'inverse, l'Italie a déjà dépassé son objectif national de renouvelables et l'Espagne n'en est pas loin. Quant à l'Allemagne, elle ne doit pas relâcher ses efforts. À 14,6% de renouvelables en 2014, elle reste dans les clous de son objectif de 18% en 2020. En revanche, la France va devoir faire des efforts. Son niveau de 2015 est à peine supérieur à 15%, alors qu'elle s'est engagée à atteindre 23% en 2020.
Et pourquoi l'objectif est si élevé pour la France ?
On sait que l'énergie nucléaire domine en France. Elle est considérée comme non polluante, mais surtout son rendement est très élevé. Ce qui veut dire que la France consomme moins d'énergie primaire que les autres pour produire une même quantité d'électricité. Sur un total qui augmente moins, il lui est donc plus facile d'accroître plus vite la part des énergies renouvelables.
Et qu'en est-il enfin des économies d'énergie, Daniel ?
Italie, Espagne et Royaume-Uni ont déjà atteint leur objectif de réduire d'un cinquième leur consommation d'énergie primaire par rapport à la tendance. Pour ce qui est de l'Allemagne et de la France, l'objectif n'est pas encore atteint, mais devrait l'être dans 3 ans.
Daniel Vigneron de MyEurope.info, à bientôt Daniel.
À bientôt Catherine.
Everything I look at now seems political, you know, even the sort of debris on my kitchen table in the morning.
À chaque élection, son artiste. C'est une tradition récente au Royaume-Uni qui date de 2001. Cette année, Cordelia Parker est la première femme à endosser ce rôle. Son travail est exposé à Londres, au Tate Modern ou encore à Saint-Pancras, pour laquelle elle a créé 2 horloges, Marie Billon.
Cornelia Parker descend du train qui l'amène de Londres à Édimbourg, en route pour assister au débat des chefs de parti écossais, peut-être le soir même. Elle cherche la sortie, puis s'arrête, sort son portable et photographie le sol. Une partie rafistolée au ciment, 2 petits carrés avec des croix à l'intérieur. On dirait un bulletin de vote. Et voilà un cliché qui va directement sur son compte Instagram Election Artist 2017. La mission de Cornelia Parker est de suivre la campagne pour s'en inspirer et produire une œuvre d'art qui devra la résumer. Mais de nos jours, impossible de s'en tenir à une création unique. L'artiste poste donc sur les réseaux sociaux des photos qu'elle trouve pertinentes ou décalées. Des poubelles ou poteaux aux couleurs des partis politiques, aux clichés pris lors des meetings ou de rassemblements, en passant par l'empreinte des fesses des représentants du peuple laissés sur les vénérables bancs en cuir vert de la Chambre des communes, vide le temps de la campagne. Cornelia Parker a accès aux candidats sur la route et dans les QG. C'est une reporter embarquée qui doit interpréter ou mettre le doigt sur des détails invisibles aux yeux des journalistes politiques. Les artistes avant elle ont choisi de peindre des portraits, des scènes ou de prendre des photos. Cette fois-ci, la représentation de la campagne devrait prendre une forme plus concrète et conceptuelle. Le journal The Guardian a remarqué que Cornelia Parker aimait fondre les objets. Alors pourquoi ne pas réduire les bus électoraux ou mettre en bouteille les larmes des perdants ? Ou pourquoi pas une œuvre plus positive ? L'artiste a notamment célébré les 800 ans de la Magna Carta en demandant à des artistes politiques et autres personnes connues et inconnues de tisser une partie d'une frise. Faire travailler la droite et la gauche ensemble sur un même projet serait un miracle.
Françoise Grelot était à la réalisation aujourd'hui. Vous pouvez nous retrouver sur RFI.fr ou sur notre page Facebook. Restez à l'écoute de la Radio Mondiale dans quelques instants de journal.